vite, bougeons, avant que notre monde plonge, plonge.
On continue avec le diplôme de mars et on va évoquer Mathilde Goanec, les fondations. On va parler des fondations avec vous, puis on parlera aussi un peu de l'Ukraine si vous voulez, parce que c'est un domaine dans lequel vous travaillez. Mais je voudrais vous interroger sur les fondations. Est-ce que vous connaissez M. Frick, qui faisait partie des barons voleurs? Mais M. Frick, c'était le champion de la sidérurgie, une des plus grosses fortunes de l'histoire des États-Unis. Et M. Frick disait, j'ai les moyens d'acheter la moitié de la classe ouvrière américaine pour qu'elle aille détruire l'autre partie de la classe ouvrière américaine. Donc il était un peu, voilà, un baron voleur. Mais aujourd'hui, M. Frick est plus connu pour la fondation Frick. Il est l'un des plus beaux musées à Manhattan. Et c'est un grand collectionneur d'art, les plus beaux Rembrandt, les plus beaux Watteau sont dans sa fondation. Alors, on se dit, ben voilà, bon, il a été un peu rude dans sa jeunesse, mais après il s'est amendé et il est devenu un grand bienfaiteur de l'humanité. Et ça, c'est le principe des fondations, qui permettent à M. Frick, au lieu de donner son argent au trésor public, il le donne à des fondations, ce qui est un placement formidable pour lui, parce que rien ne rapporte plus que l'art, c'est un très beau placement. Et d'autre part, évidemment, ça lui donne une image absolument formidable de mécène et de bienfaiteur de l'humanité. Ce préambule pour vous demander si c'est la même chose en France.
Je crois pas encore et pas tout à fait. Les fondations en France sont encore regardées parfois d'un mauvais œil parce que justement s'oppose une tradition en France en tout cas où on fait plus confiance qu'aux États-Unis, je pense, au rôle de l'État. Mais c'est en train de changer et c'est pour ça que ces fondations reconnues d'utilité publique dont je parle dans le papier sont en pleine expansion et ont été en pleine expansion grâce à des lois favorables à la fois sous la droite et à la fois sous la gauche où on a reconnu au fur et à mesure du temps l'importance du mécénat. Mais pas seulement dans le domaine culturel, que vous évoquiez, l'art, etc., mais aussi dans des domaines comme l'éducation, la politique, la santé, enfin des domaines qui pourraient s'apparenter à des activités purement étatiques, notamment l'éducation et la santé. Et l'action sociale, qui est aussi un domaine, un secteur où les fondations ont de plus en plus d'importance. Donc voilà, je pense pas qu'on est dans la même dimension, dans la même échelle.
On en prend le chemin.
Mais on en prend le chemin si on n'y prend pas garde, des atours que vous évoquiez de faire le bien de l'humanité, c'est-à-dire permettre la pluralité, permettre à chacun d'avoir accès à l'art, à la santé, à l'éducation, etc. Sous des motifs qui sont plutôt positifs quand on les énonce juste comme tels. Mais la réalité est un peu différente.
Alors comment ça fonctionne ici ?
Donc en France, en tout cas pour les fondations reconnues d'utilité publique, il est possible pour les particuliers, les entreprises et notamment les personnes assujetties à l'ISF, à l'imposition sur la fortune, de verser une somme à des fondations reconnues d'utilité publique, donc il y a eu un label qui a été décerné par le ministère de l'Intérieur et ce don va être défiscalisé à 66% ou à 75% pour les personnes qui payent l'ISF.
C'est-à-dire que c'est, au lieu de payer mon ISF au trésor public, je peux désormais le verser à une fondation.
Pas tout votre ISF, mais en tout cas une partie, oui, de votre ISF, vous pouvez le défiscaliser par le biais des fondations reconnues d'utilité publique. Et donc, c'est pour ça que je parle d'une tendance aussi défendue par les libéraux, parce que c'est... Je ne veux pas que mon argent serve aille à l'impôt et je ne veux pas que mon argent aille à un État que je juge mauvais gestionnaire.
Et à n'importe quoi.
Et qui va le mettre dans n'importe quoi et surtout dans des choses auxquelles je ne crois pas. D'accord. L'hôpital public, l'éducation publique, enfin voilà. Voilà. Donc je préfère l'affecter à des causes qui me sont chères. Comme l'école privée, dont je parle dans le papier, mais comme, par exemple, l'action pour les handicapés.
Ou le secours populaire. L'abbé Pierre.
C'est pas illégitime en soi de vouloir faire des dons et de vouloir donner son argent au secours populaire ou au Resto du Cœur, effectivement. Ce qui pose problème, et c'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est que ça touche à des domaines où normalement l'État est régalien et on le dépèce de cette manière-là. C'est-à-dire en permettant, dans le cas de l'école, à une école hors contrat, donc en dehors de l'éducation nationale et même en dehors de l'école privée sous contrat avec l'État, quand on permet à ces gens-là de financer cette école-là hors contrat par le biais de dons défiscalisés, en fait, l'État subventionne un domaine qui, normalement, qu'il ne subventionne pas. Si vous êtes libre de ne pas mettre votre enfant à l'école publique, ou même à l'école privée sous contrat, c'est votre choix, mais dans ce cas-là, vous en assumez le financement. Or là, on le finance de manière détournée par